Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
Le journal inattendu d'Oratica
avec Bernard Poirette sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal inattendu d'Oratica. Merci d'être avec nous, Oratica, dans ce studio de la rue Bayard. Vous voyez qui est Oratica ? Certainement, sûrement, si vous avez vu La vérité si je mens. C'est dans ce film en 96 qu'Oratica est devenue Karine. Après, il y a eu bien d'autres films avec Jacques Audiard, avec Michel Hazanavicius ou encore avec Thomas Gilou pour les suites de La vérité si je mens. Mais pour l'heure, Oratica est passée à autre chose, à l'écriture. Elle publie son premier roman chez Fayard. Ça s'appelle Mon ciel et ma terre. Enfin bon, un roman, c'est sans doute pas un roman puisque le personnage principal, c'est sa mère qu'elle a follement aimée et dont sans doute elle a pris quelques-uns des traits de caractère, en tout cas je l'espère. Nous allons avoir du temps pour décortiquer tout ça, Oratica. Merci donc d'avoir accepté cette invitation de RTL. J'aimerais que vous complétiez vous-même cette rapide ébauche professionnelle par un autoportrait pour lequel vous avez carte blanche. Je vous en prie. Qui êtes-vous exactement ?
J'aimerais être Isabelle Huppert, l'actrice.
Ah oui.
Mais je suis Oratica. Et d'ailleurs, pourquoi mais ? Je suis donc Oratica. Ce qui ne signifie rien, mais c'est déjà pas mal. Je suis une femme, assurément femme, regardez-moi.
Oui.
J'ai la tête dure et le cœur fragile, ou l'inverse. Et puisque le cinéma et l'art m'ont chopée, j'y trace ma route avec volonté et application. J'aime le travail bien fait et la sincérité. J'essaye d'y injecter plus de liberté, plus de fantaisie, plus de légèreté dans la vie aussi. Je suis fière de mes courts-métrages, de quelques rôles et d'avoir terminé ce roman. Je cherche la compagnie des autres à être intégrée comme si je fuyais mon goût d'être seule. Et je rêve toujours de plus d'architecture, de projets à monter à plusieurs, de voyages en Asie. Je rêve beaucoup, j'avance un peu. Je fais presque du mieux que je peux. C'est juste moi.
C'est juste vous. Et c'est vous qui avez écrit ça, bien sûr, pour ce journal inattendu. Je précise qu'en matière d'écriture, votre bouquin est très bien écrit. Pour avoir, voilà, c'est un premier bouquin,
merci.
Mais c'est très agréable à lire. Ça se lit vite, hein, c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est très plaisant à lire.
Oh là là, ça veut dire quoi ça,
Mais attendez, il y a des bouquins de 800 pages, il faut s'y mettre avec un masque
non,
et des pages,
non, dites juste que c'est bien écrit,
c'est
ça
m'ira. C'est bien écrit et c'est très plaisant à lire. Donc, Mon ciel et ma terre. On va avoir largement le temps d'en reparler de ce sujet ainsi que de tout le reste de votre actualité, Oratica. Mais d'abord, il faut passer aux dernières informations de ce samedi 11 février. Et ces infos sont présentées par Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Bernard, bonjour Oratica, bonjour à tous.
Bonjour Bernard.
Alors c'est un
bonjour.
Nouveau week-end assez chargé sur la route des vacances où nous ne sommes pas, nous tous.
Une journée classée rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. On va faire un point sur le trafic avant d'aller voir des vacanciers impatients d'arriver sur les pistes. Rachid Kassim pourrait avoir été tué en Irak si la mort de ce djihadiste français se confirme. Ce serait un coup dur pour Daesh. Un attentat à suicide pourrait d'ailleurs avoir été déjoué à Montpellier, en France. Parmi les suspects interpellés, une jeune fille de 16 ans. Sa mère a confié son choc à RTL. Et dans ce contexte, le carnaval de Nice commence ce soir une grande fête populaire sous le signe de la sécurité. Enfin, Valérie Quintin nous donnera la tendance météo pour ce week-end.
Le journal inattendu sur RTL.
Absolument. De nombreux Français sont donc en vacances scolaires ce week-end, puisque c'est le début de la première semaine de congé pour la zone B, et c'est la deuxième semaine pour la zone C.
Du coup, on attend encore beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Bison Futé a classé la journée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens. Charles Dodon, quelles sont les principales difficultés à la mi-journée ?
Alors, on commence par la Bourgogne sur la 6 en direction de Lyon, bouchon à Avallon. Passons également en Côte d'Or à hauteur de Pouilly-en-Ossois dans les deux sens. Mais les principales difficultés, on les retrouve au pied des stations alpines. Le trafic est bien ralenti sur la 43 entre les secteurs des Abrets, de Chambéry et d'Albertville. Même chose au sud de Bourg-Saint-Maurice. Et puis, sont concernés également par les difficultés les secteurs de Grenoble, de Gap. Enfin, les coups de frein sont nombreux aussi à Bourg-en-Bresse et à Annemasse sur la 40.
Radio Guidage RTL signé Charles Dodon. On vous retrouve toute l'après-midi pour le suivi des difficultés. Et surtout, soyez prudents si vous devez prendre la voiture ce week-end. Le nombre de morts sur la route a augmenté de quasiment 9% en janvier par rapport à l'an dernier. 257 personnes ont perdu la vie au volant. Il y a eu moins d'accidents, mais ils ont été plus mortels.
On l'a vu, beaucoup de monde donc sur la route ce week-end. Les Français partent en particulier, mais pas seulement bien sûr, en direction des stations de ski.
Ouais, le samedi, c'est traditionnellement le jour des départs et des arrivées dans les locations. Arnaud Grange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur une aire d'autoroute entre Lyon et Chambéry sur la 43 et vous avez rencontré des vacanciers impatients de chausser les skis.
Oui, pas question pour certains de perdre la moindre minute dans cette famille nantaise. Parents et enfants ont déjà la doudoune et les après-ski aux pieds.
On a hâte d'être sur les pistes, de faire de la luge avec les enfants, de profiter en famille, tout simplement.
Il reste à acheter les forfaits.
Bah, ils sont prêts, les forfaits, on n'a plus qu'à les récupérer. Donc voilà, on est hyper organisés.
Ah, très organisés.
Pas de perte de temps pour profiter à fond. Parce qu'on n'a qu'une semaine, donc profitez à fond.
Ces vacances sont une parenthèse, une bouffée d'air pour le papa.
Moi, j'attends ça depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc voilà, très impatient et content. Là, il fait beau. La route s'est bien passée jusqu'à présent. Donc beaucoup de sérénité et du bonheur en perspective avec les enfants.
Les enfants aussi piaffent d'impatience. Miguel, 8 ans, est pressé de faire de la luge, du ski, mais surtout des batailles de boules de neige.
Bah, le ski, c'est marrant, c'est drôle. Une gamelle, la bataille de neige, je lance des boules de neige dans la tête et tout, c'est trop marrant. La dernière fois, j'avais jeté une boule de neige et puis elle a atterri sur la tête de mon frère, il est tombé par terre.
Mais pour l'instant, un peu de patience, des bouchons sont annoncés jusqu'à 18h.
Arnaud Grange sur la route des vacances à la neige pour RTL. On respire de l'air pollué aujourd'hui en région parisienne. Nouveau pic de particules fines dans l'atmosphère. La ville de Paris vous conseille de privilégier les transports en commun et du coup, le stationnement résidentiel est gratuit. Dans la capitale, un nouvel épisode de pollution qui devrait durer encore demain selon Air Paris.
C'était l'une des cibles privilégiées des forces de la coalition en Irak. Il s'agit du djihadiste français Rachid Kassim. Il pourrait avoir été tué par un drone près de Mossoul en début de semaine.
Sa mort est jugée probable par les autorités françaises et américaines. Rachid Kassim aurait recruté de nombreux djihadistes via les réseaux sociaux notamment. Il aurait également inspiré plusieurs attentats en France, notamment l'assassinat du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville en juin dernier. Jean-Charles Brizard est spécialiste du terrorisme. Si Rachid Kassim est bien mort, ce serait un vrai coup dur pour l'État islamique.
C'est un coup important porté à Daesh, en particulier dans sa capacité à planifier, à organiser des attentats sur le territoire français. On sait que Rachid Kassim est responsable d'une manière ou d'une autre de plus de la moitié des attentats déjoués sur le territoire national en 2016, par exemple. C'est lui qui, en effet, depuis la zone syro-irakienne, activait des individus, les pilotait à distance, leur donnait des conseils opérationnels. Il est lié à des projets, je l'ai dit, mais également à des attentats. Ça fait partie de ces individus, de cette nouvelle menace, finalement. Il y avait la menace d'individus inspirés sur le territoire national. Il y avait la menace, bien sûr, dirigée par l'État islamique, celle du 13 novembre, par exemple. Et puis, il y avait celle qui venait d'individus, de djihadistes, qui téléguidaient à distance, via des messages cryptés, des jeunes en particulier, pour perpétrer des attentats.
Jean-Charles Brizard avec Jacques Soret pour RTL.
En France, la menace terroriste reste très élevée. Un attentat a sans doute été déjoué tout près de Montpellier.
4 personnes ont été interpellées hier, 3 hommes, mais aussi une adolescente de 16 ans. RTL a pu rencontrer sa mère. Sous le choc, elle pense que sa fille a été manipulée.
Imaginez dans quel état je suis. Très choquée, puisque je n'ai absolument pas pu imaginer ce genre de choses. Qu'un jeune homme, quand même très jeune, puisse avoir déjà l'idée lui-même pour lui-même et entraîner ma fille à être trahie par un jeune homme qui est soi-disant sort avec ma fille uniquement voilà, en tant que petite amie et que la maman que j'ai eue au téléphone n'a même pas daigné me parler de son fils.
Et vous ne vous êtes pas aperçue de la radicalisation de votre fille ?
Non, non. Qu'elle se cherchait en religion, oui, pour savoir un peu toutes les religions. Une jeune fille se cherche. Et si elle a été manipulée, il n'y a pas de limite pour ces gens-là qui veulent recruter ou je ne sais quoi. C'est terrible. Hein. C'est un drame familial comme jamais. Hein.
La mère de cette adolescente interpellée hier à Montpellier avec Aline Thibal. Les enquêteurs ont retrouvé de l'explosif artisanal au domicile des suspects, suffisamment pour fabriquer une ceinture explosive. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des suspects projetait de se faire sauter. Autre tentative d'attentat la semaine dernière près du musée du Louvre à Paris. L'assaillant a finalement été mis en examen hier, notamment pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Cet Égyptien de 29 ans est toujours hospitalisé, gravement blessé par les tirs de riposte des militaires qu'il avait tenté de blesser avec une machette.
Et dans ce contexte très violent, c'est ce soir que commence le carnaval de Nice.
Oui, c'est le plus grand rassemblement depuis l'attentat du 14 juillet à Nice. 15 jours de festivités, 250 000 visiteurs attendus. Le préfet des Alpes-Maritimes, invité ce matin d'RTL, promet une sécurité proche de celle des fan zones. Une grande fête populaire donc qui sera forcément dans une ambiance un peu spéciale, Mickaël Lefebvre.
Oui, un carnaval particulier car il a d'abord été beaucoup question de sécurité dans sa préparation. Un nouveau tracé a d'ailleurs été défini pour mieux en contrôler les accès, mais aussi afin d'éviter la promenade des Anglais qui ne peut accueillir d'événements festifs au moins jusqu'au 14 juillet prochain. Les chars circuleront donc dans un espace plus restreint, un handicap pour Laetitia, maman niçoise de 4 enfants.
On a vu que cette année tout était concentré sur la place Masséna. Il n'y a pas le corso sur la prom, ce que je comprends très bien. Mais du coup, il va y avoir beaucoup plus de monde parce que tout est concentré au même endroit. Et vous voyez, j'ai 4 petits-enfants et en fait, j'ai pas envie de les perdre.
Mais pour Denis Anon, directeur directeur de l'Office du tourisme de Nice. Tout a pourtant été fait pour préserver les traditions.
On ne change rien au programme et à l'enthousiasme, c'est-à-dire le contenu du carnaval. Et on le fait comme on l'a toujours fait. Et ça, c'est important pour garder l'esprit.
Un esprit que revendique Mathilde, jeune étudiante niçoise.
L'ambiance de fête pour les Niçois, même sans aller au carnaval, est liée à cette période-là. Et ça, ça va perdurer.
Se déguiser, faire la fête, mais ne rien oublier, une nouvelle étape dans la reconstruction des Niçois.
Le reportage de Mickaël Lefebvre, correspondant RTL à Nice. Les 32e victoires de la musique sous le signe de la jeunesse. C'était hier soir. Jane, 25 ans, a reçu deux récompenses pour son clip Makeba. Elle a également été sacrée artiste féminine de l'année. Meilleure chanson originale pour Vianney, 25 ans lui aussi. Meilleur album électronique pour le Toulonnais Kungs, à peine 20 ans. De la jeunesse, c'est vrai, mais pas seulement. Renaud a reçu le prix de l'artiste masculin de l'année. Le groupe Louise Attaque a également été récompensé pour son album Anomaly.
Pourquoi est-ce que vous souriez quand vous constatez que Renaud a été récompensé? Vous êtes allé le voir?
Non, récemment. Mais ça a été, je crois, le premier album LP, 33 tours, que j'avais acheté vinyle. Quand j'avais acheté quand j'avais 12 ans. Mais j'étais très fan à l'époque. Je peux vous chanter même quelques chansons de Renaud. Mais allez-y,
je vous en prie. Laquelle?
Banlieue Rouge.
Ben, allez-y.
Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, il n'y a jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours gris, comme un mur d'usine, comme un graffiti.
Vous avez une meilleure voix que lui actuellement.
Voilà, donc j'étais très fan de Renaud, plus maintenant.
Il a vendu 700 000 exemplaires l'année dernière. Mais vous n'aimez plus maintenant? Pas parce qu'il a changé de voix?
Non, je suis moins fan du personnage, en fait.
Ok, juste un instant, on revient à l'actualité. Il faudrait quand même que Valérie Quintin nous donne la tendance météo pour aujourd'hui. Globalement, au nord de la Loire, en tout cas, c'est assez froid aujourd'hui.
C'est très hivernal, on a même des chutes de neige en cours sur le nord, sur le Pas-de-Calais, en Picardie ou encore sur la Normandie. Ça va toucher aussi l'île de France probablement, des petites chutes de neige jamais en abondance, qui vont concerner également le nord-est. On a pareil un mélange pluie-neige entre la Lorraine, l'Alsace, en glissant jusqu'à la Bourgogne et à l'Auvergne. Et plus on va aller vers l'Atlantique ou encore vers la Méditerranée, plus on a des chances de trouver du soleil. Ce sera le cas aussi dans les Alpes. Alors, je ne vous parle pas d'un grand ciel bleu, simplement une ou deux petites lueurs de temps en temps. Notez qu'il y aura aussi du vent dans le golfe du Lion et de la neige en montagne à 1300 mètres sur le massif central, à 1500 mètres sur les Pyrénées. Les températures à Lille, 1 degré au meilleur de l'après-midi. À Paris, 3 degrés. Il fera 6 degrés à Strasbourg, 8 à Bordeaux, 12 à Lyon et 14 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Quintin. Vous pouvez disposer. La prochaine météo, c'est pour vous, Ratika. À 13h après le rappel des titres d'Alexandre de Saint-Aignan. Je reviens, je rétropédale dans les 8 minutes d'info. Là, il y a quelque chose qui vous a accroché l'oreille, sur lequel vous voulez dire un mot, ou pas?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que je me dis, j'aimerais bien qu'on fasse un journal d'info positive et plus...
Le mythe des journaux d'info positive, oui. Mais ça n'existe pas. Enfin, il y en a une de temps en temps.
Est-ce que vous avez déjà essayé?
Ça vaudrait le coup d'essayer. Depuis 3 heures du matin, il n'y en a pas une bonne.
Oui, mais non, mais ça dépend comment on voit les choses. Je suis sûre qu'on peut trouver des bonnes infos.
C'est forcément ça.
Mais il faudrait essayer une fois.
Vous qui avez une gamine de 14 ans.
15 ans, depuis la semaine dernière.
Vous avez vu cette môme de Montpellier, 16 ans, qui voulait aller se faire sauter avec une ceinture d'explosifs. Est-ce que parfois ça vous traverse l'esprit, Oratika, que ce genre de drame, pourquoi pas elle? Pourquoi pas votre fille? Peut-être, j'en sais rien.
Bien sûr.
Ça vous angoisse?
Évidemment que ça nous en...
Parce que vous ne verrez rien, comme la maman de cette jeune fille qui n'a rien vu venir.
Mais je pense qu'il faut être très, très vigilant. Enfin, il faut avoir un rôle de parent très fort et être très vigilant et très à l'écoute et privilégier le dialogue, toujours, évidemment, mais aussi être à l'écoute de ce qui se passe dans la tête des adolescents. Les adolescents sont... Enfin, on vit tellement quand on est adolescent, souvenez-vous, je ne sais pas, quand vous aviez 13-14 ans, c'est des passages tellement difficiles avec le corps, avec le rapport à autrui, avec la perte des valeurs, on ne sait plus à quoi s'identifier, il y a trop d'images vidéo, trop de YouTube, trop de... C'est terrifiant, donc évidemment.
Mais ça débouchait par des cuites, mais ça débouchait pas par « je vais aller à l'État islamique ».
Oui, mais parce qu'il n'y avait pas Internet aussi, il n'y avait pas tout ça.
Bon, c'est la faute à Internet et aux journalistes, forcément, comme d'habitude. C'est
non, le journal ça, je l'ai inattendu. Pas dit. Ça, je le dis pas.
Non, ça, c'est Monsieur Fillon qui dit ça. Et c'est le journal inattendu de Oratika. On y revient dans un instant, et en musique, s'il vous plaît.
Une banlieue ordinaire.
Que c'est la cuisine, canapé frigidaire.
préférerais habiter si t'es Mireille Mathieu. Au moins, elle sait qui c'est.
Banlieue Rouge de Renaud. Ça, elle aimait bien. C'était la période qu'Oratica aimait beaucoup chez Renaud. Maintenant, elle aime moins Renaud. Il n'empêche que hier, il a eu une récompense
si
aux victoires de la musique.
Une
A tout de suite, Oratica, pour la suite de votre journal inattendu.
Je suis ravie d'être là.
On va rentrer dans le dur. Mon ciel et ma terre d'Oratica chez Fayard. Elle a commis ça. Elle parle de sa maman là-dedans. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Oratica et Bernard Poirette.
Lancelot as he comes charging to the rescue.
What's going on here?
3.5 seconds, champ, you were great.
Ça vous dit quelque chose, Oratica?
Est-ce que ce serait pas un film de Russ Meyer?
Mais oui, c'est un film de Russ Meyer de 65.
Faster Pussycat Kill Kill.
Faster Pussycat Kill Kill, avec des femmes avec des seins comme ça, habillées tout en cuir et des longs cheveux blonds ou bruns.
Et de l'eyeliner.
Et de l'eyeliner extraordinaire.
Des voitures décapotables.
Alors, j'ai voulu absolument qu'on passe cet extrait parce que d'abord, il y a peu de gens qui ont vu ce film, objectivement. C'est un
bien
petit
sûr.
Peu de la série B, érotico, machin truc,
plus.
Ou Z, on sait pas. Pourquoi ce film vous a-t-il, et peut-être a-t-il marqué votre maman, je ne sais pas, d'une certaine façon, mais pourquoi est-ce que c'est important ce film pour vous, Oratica?
Parce que ce film m'a réconciliée, en fait je l'ai vu quand j'avais 17 ans, et tout à l'heure on parlait de l'adolescence et du mal-être adolescent, et ce film m'a réconciliée avec mon corps, j'ai su tout d'un coup, j'ai trouvé une place, comment me positionner. J'étais là un peu engoncée dans mes formes dont je ne savais que faire. Et ce film...
Bah vous êtes pas mal maintenant à 46 ans, c'était pas le cas quand vous en aviez 15?
Bah non, vous savez, vous avez 15, vous avez des formes tout d'un coup, vous rendez compte que le regard des hommes change et vous savez pas trop comment gérer ça.
Et vous avez voulu ressembler aux filles de Russ Meyer?
En tout cas, elles m'ont permis d'affirmer ma féminité d'une façon un petit peu guerrière, mais en tout cas de l'assumer.
De l'assumer.
Voilà.
Est-ce que la vie que vous avez menée avec votre mère, Odette, donc en l'occurrence, c'était assez extraordinaire. Bon, comment on peut la résumer, votre maman? C'était une babe, c'était une hippie, c'était une droguée, c'était quoi? C'était qui? C'est phénoménal ce que vous racontez. Je ne peux pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais il y a toute une série de scènes vécues entre vous et elle. Vous étiez dans une espèce de tourbillon et de maelstrom familial permanent. C'était un foutoir noir.
Oui, alors oui, je sais pas.
Moi, je
le vivais
ça.
Pas comme ça. En tout cas, c'était l'aventure tous les jours. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui allait se passer à la minute d'après. Enfin, ou à l'heure d'après, ou au jour d'après.
Vous ne saviez pas comment vous mangeriez, ce que vous feriez de votre journée,
non,
etc.
Non, j'exagère. Là, en plus, c'est un roman. Donc, je ne raconte que les épisodes les plus saillants. Et puis, voilà, j'en fais un livre. Mais c'est vrai qu'il y avait, elle était ce que vous avez dit, mais pas que. C'était une femme qui était ivre d'indépendance et qui s'est perdue un petit peu là-dedans, mais qui recherchait en fait une autre forme de vivre la société, de vivre le monde. Donc c'est passé aussi par les drogues, mais pas que. Mais c'était aussi, ça passait par son goût pour l'art, par la recherche, par le doute permanent,
qu'elle vous
par
a transmis d'ailleurs, ce goût pour l'art et pour les belles choses en général.
Oui, oui,
vous savez
c'est
que vous
vrai,
aimez les belles choses,
vrai.
Les
ouais.
belles pièces d'architecture, ouais. La belle littérature, enfin ce qui est beau.
Bah, c'est toujours mieux non, de bah, s'entourer de belles choses, tant qu'à faire.
Vrai. C'est vrai,
tant
mais ce n'est pas forcément toujours évident. Ça dépend de...
Non, ce n'est pas évident,
ça
bien
dépend
sûr.
De ce qu'on a eu comme éducation.
Mais je préfère le beau que le pratique, en effet.
Vous préférez le beau au pratique, sans aucun doute. Excellent. Écoutez, on en reparle dans un instant, si
d'accord.
vous le voulez bien. On s'arrête un instant, il est 12h50, c'est le journal inattendu d'Oratica, qui rend un hommage assez remarquable à sa maman dans ce livre « Mon ciel et ma terre » qui vient de paraître chez Fayard.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Oratica et Bernard Poirette.
Oratica, dans ce livre, on apprend plein de choses sur vous, sur votre enfance, sur votre rapport à votre maman. Et puis on découvre que, en fait, vous n'avez pas connu votre papa. On est bien d'accord.
Si, je l'ai rencontré.
Bah, oui, mais
peu de fois, oui, voilà. J'ai pas grandi
peu de fois.
Avec
vous l'avez
lui.
Cherché. Vous l'avez recherché.
Non, d'abord, je l'ai découvert à la maison quand j'étais petite, et ensuite, le temps d'une soirée, et ensuite, après, j'ai été le voir à la campagne. J'ai été le voir, et bon, voilà, ça a été des rencontres furtives intéressantes.
Et c'est un processus douloureux ou plus important que douloureux, plus nécessaire que douloureux?
De rencontrer son père
qui, finalement, n'a pas voulu vivre avec vous, d'une certaine façon.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu de vie commune entre la mère et le père.
Oui, c'est peut-être pas un rejet de vous, en l'occurrence.
Oui.
Mais enfin, après ça, vous êtes partis le chercher
quand même. Oui, oui, je suis partie le chercher parce qu'à 15 ans, j'ai eu besoin de le rencontrer. Mais non, parce que comme ma mère avait construit une légende, ma mère aimait beaucoup les belles histoires, donc comme ouais. elle avait construit une légende autour de lui, c'est-à-dire une belle photo et trois phrases élogieuses à son sujet, je m'étais construit avec une identité, comme une personne, comme ça, un peu fantôme, comme une figurine, un petit peu fantôme.
Et donc, vous avez voulu
j'ai
vérifier
poussé avec ça. J'ai voulu
si
vérifier.
Vrai ou pas.
Et... oui, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, j'ai voulu le rencontrer en chair et en os. Bon, c'était un peu différent de la légende.
Bon, ça arrive souvent, hein. Quand on cherche une vérité, on en trouve une autre.
Oui, et puis c'est des âges aussi où on découvre que nos parents ne sont pas des dieux, mais qu'ils sont juste des humains, avec des qualités et des défauts.
Alors Attika, vous avez dit que, bon, chez vous, c'était un petit peu l'incertitude au quotidien, on ne savait pas trop comment allait tourner la journée, etc. Et peut-être en réaction à ça, vous dites que vous avez eu besoin absolument d'un cadre, que vous adoriez l'école, par exemple, qui vous imposait des horaires, une règle de vie, une espèce de contrainte. Comment ça se fait ? C'était vraiment de la réaction ? Ou c'est votre fond de commerce personnel ?
Ça, je l'analyse maintenant comme ça. Je pense aussi que j'étais dans notre couple fusionnel, j'étais un petit peu la raisonnable.
Fusionnel avec votre mère.
Oui.
Oui.
Elle était
la fofolle et vous la raisonnable.
Oui, donc on s'était mis toutes les deux, comme dans tous les couples, quoi, chacun se met dans un rôle.
Ouais.
Et donc du coup, ben, moi, c'est vrai que je me raccrochais à des choses un petit peu carrées, parce que j'aimais ça et que ça me rassurait, je pense.
Ça vous rassurait.
Oui.
Et alors, vu l'époque et vu la personnalité de votre maman, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement particulier, la musique, si j'ai bien compris, était très importante à ce moment-là. Vous baigniez là-dedans. D'ailleurs, vous êtes née au Portugal parce qu'elle était partie pour un festival de rock, c'est ça ?
Oui,
et elle
parce
a accouché
que j'ai un,
sur
oncle, j'ai un oncle qui avait monté un premier festival de rock à Cascais.
Et ah, donc, tout près de Lisbonne, donc voilà. C'est là-bas que vous êtes née, mais par
et
hasard.
Et donc je
vous
suis née là-bas, où on est parti en vacances 3 mois, avec toute la famille, et je suis née là-bas.
Donc j'imagine que vous écoutiez en particulier eux, les Stones.
Wow.
Qui ne les a pas écoutés, vous allez me dire. Il faut vraiment être au fond d'une grotte pour ne pas avoir écouté les Stones dans ces années-là. Start Me Up, c'était en 1981, c'est bien ça. Vous vous en souvenez?
Je me souviens pas des dates.
Il y avait autre chose, ça c'est un peu plus vieux. C'est plus mon époque parce que j'ai quelques années de plus que vous, Attika.
C'est bon ça.
C'est les types qui font pipi sur le bloc de granit, vous vous souvenez ? C'est les Who, c'est la pochette du disque.
Et ma mère me disait que j'avais été dans les bras du batteur des Who à 6 mois. Elle
c'est
avait été
vrai.
Au concert des Who et le batteur m'avait pris dans ses bras sur scène.
Vous en souvenez ?
Non, je m'en souviens pas.
Non, pas possible. Ça, c'est formidable, ouais. Ça c'est absolument formidable.
C'est beau, hein ?
Est-ce qu'elle vous manque tous les jours, Attika ?
Non, elle m'a manqué pendant longtemps, mais non, elle me manque. Enfin, elle me manque, en fait, j'aurais bien aimé qu'elle soit là aujourd'hui pour être une belle grand-mère. Elle aurait été une grand-mère
oui.
parfaite.
Pour voilà. votre fille, voilà. bien évidemment. Et puis, elle serait peut-être venue en studio avec nous pour nous raconter des histoires, mais vous n'auriez pas fait le livre, alors, peut-être ?
Peut-être, mais je pense qu'elle aurait aimé le livre.
Ah ben,
et puis il y a un truc très très ambigu, c'est que sa mort m'a aussi donné beaucoup de force. C'est pas très correct parfois de dire ça, mais parfois la disparition de quelqu'un vous donne beaucoup d'énergie
oui.
aussi pour d'un coup c'est vous qui êtes en haut de la pile, enfin en haut de la liste, et donc ça m'a donné beaucoup d'énergie aussi pour m'accomplir en tant que jeune femme.
Et vous en avez fait du chemin depuis. Hein.
Donc voilà, donc je la remercie aussi pour ça.
Elle vous entend, il n'y a pas de problème.
Oui, oui.
19h57 sur RTL, la suite du journal. Bon, 19h, mon Dieu, 12h57. Je me suis
le temps passe
tôt.
Tellement vite.
Je suis complètement
avec
décalé,
moi,
là, je suis en
dingue.
Nouvelle-Zélande, là où les baleines se sont échouées encore il y a quelques heures. 12h57 exactement, vous écoutez le journal inattendu d'Attika qui va continuer bien évidemment dans toute la prochaine demi-heure. On s'arrête un petit instant, on fait le rappel des titres, elle va faire la météo, Attika, et on
c'est
revient.
C'est pour ça que je suis
ensuite.
Venue.
Non, c'est pas pour ça que vous êtes venu. Et on revient à
non,
son actualité et à son invité. Elle a voulu inviter un monsieur qui s'appelle Eric Scotto et qui est quelqu'un qui a plein de choses à raconter. Il est exactement 13h. Le flash d'information avec Alexandre de Saint-Aignan.
C'était l'une des cibles privilégiées des forces de la coalition en Irak. Le djihadiste français Rachid Kassim a été visé cette semaine par une frappe près de Mossoul. Pas de confirmation officielle de sa mort pour l'instant. Jugé probable quand même par les autorités françaises et américaines, Rachid Kassim aurait recruté de nombreux djihadistes via les réseaux sociaux. Il aurait également inspiré plusieurs attentats en France, notamment l'assassinat du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore le meurtre d'un couple de policiers à Magnanville en juin dernier. Terrorisme toujours. 4 personnes ont été interpellées hier près de Montpellier. La police les soupçonnait de préparer un attentat imminent. 3 hommes, mais aussi une adolescente de 16 ans. RTL a pu rencontrer sa mère. Sous le choc, elle pense que sa fille a été manipulée. Les enquêteurs ont retrouvé de l'explosif artisanal au domicile des suspects, suffisamment pour fabriquer une ceinture explosive. Vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances. On attend à nouveau beaucoup de monde ce week-end en direction des stations de ski. La journée est classée rouge dans les deux sens en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire au pied des stations de ski. François Fillon tente à nouveau de faire oublier les scandales. Aujourd'hui, à plus de 9000 km de la Sarthe, le candidat de la droite est en visite pendant 3 jours à La Réunion. « Je suis venu présenter un projet puissant », a déclaré ce matin l'ancien Premier ministre à son arrivée sur l'île, minée par l'insécurité et par le chômage. À l'étranger, au moins 6 morts dans un séisme dans le sud des Philippines, 6,5 de magnitude. On recense également une centaine de blessés et de nombreuses destructions. Le football, plusieurs rencontres de la 25e journée de Ligue 1 sont à suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Guingamp-Lyon à 17h et puis 5 matchs à 20h. Lille-Angers, Dijon-Caen, Nancy-Montpellier, Toulouse-Bastia et Monaco-Metz. Ce sera à suivre en direct ce soir sur RTL dans le multiplex RTL L'Équipe avec Christian Olivier et Pascal Pro. A noter qu'hier soir, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 3-0 à Bordeaux. Il rejoint provisoirement Monaco en tête du championnat. La Ligue 2, 25e journée également à suivre cet après-midi. Reims affronte Sochaux à 15h et puis du rugby également cet après-midi dans le tournoi des 6 nations. Italie-Irlande à 14h50, Pays de Galles, Angleterre à 17h25. Demain, les Bleus affronteront l'Écosse au Stade de France. Et puis le tennis, les quarts de finale de la Fed Cup. 2 Françaises au programme de l'après-midi, Alizée Cornet et Kristina Mladenovic. Enfin, c'était les victoires de la musique. Hier soir, Renaud a reçu le prix de l'artiste masculin de l'année et de nombreux jeunes ont été récompensés. Jane, 25 ans, notamment sacrée artiste féminine de l'année. Meilleure chanson originale pour Vianney, 25 ans lui aussi. Le groupe Louise Attaque a également été récompensé pour son album Anomalie. Le temps, c'est à vous, Horatica.
Je vous en prie. Quel temps pour aujourd'hui, Or?
Alors, le temps cet après-midi sera très instable sur tout le pays. On attend des chutes de neige au nord de la Seine, des pluies dans l'est et du golfe du Lion aux Cévennes, et un peu de soleil des Alpes à la Méditerranée, mais aussi près de l'Atlantique. Pardon. Les températures assez douces dans le sud resteront plutôt hivernales au nord, avec un minimum de 2 degrés à Lille cet après-midi et un maximum de 16 degrés à Ajaccio et aussi moins 3 degrés à Val d'Isère et 12 degrés à La Romieux et Lectoure dans le Gers.
Alors, je précise pour les auditeurs que quand tout à l'heure Valérie Quintin lui a amené sa météo, parce que c'est elle qui a écrit et que vous étiez chargée de lire, vous avez dit « je veux 2 températures en plus, Val d'Isère et Lectoure ». Pourquoi ? Lectoure, je sais, parce que c'est là qu'est votre maison de campagne. On va en parler tout à l'heure.
Dans le coin, dans le coin. Val d'Isère, parce que j'ai de la famille là, qui est à Val d'Isère pour skier et que je vais peut-être réussir à les rejoindre 2-3 jours. Donc, voilà.
Ah, d'accord. Donc, c'est pour
je
ça.
Je sais qu'ils nous écoutent.
D'accord. Parce que ça pourrait être aussi parce que le papa de votre fille est savoyard.
C'est aussi, mais c'est, voilà, c'est la famille éloignée, c'est la famille étendue. Oui, bien sûr.
Ah bah écoutez, ça tombe très bien parce qu'on va réintroduire le débat avec ceci. Pardonnez-moi, Horatica, je ne connaissais pas. Ça s'appelle Cassius. C'est un groupe. Ils ne sont que deux.
C'est Hubert Blanc-Francard et Philippe Zdar.
Voilà,
Et oui, c'est un groupe de musique électronique. Alors, vous ne connaissez pas, mais plein de gens connaissent.
Ben, je sais. Mais moi, je suis assez inculte en matière musicale.
Je crois qu'ils étaient nommés hier aux Victoires aussi.
Ils étaient nommés, ils avaient quelque chose. Alors, Philippe Zdar, donc en l'occurrence, c'est le papa de votre fille. On est bien d'accord, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu revenir dans l'émission avec ça. Et puis, peut-être qu'il nous écoute. Je ne sais pas s'il n'a pas passé la nuit à faire la bringue suite à sa nomination aux Victoires de la musique. Mais enfin, le fait est. C'est l'heure maintenant, puisqu'il est 13h05 sur RTL. Vous êtes dans le journal inattendu d'Horatica de recevoir votre invité. Horatica. Il s'appelle Éric Scotto et c'est le président d'Acuo Énergie. Monsieur Scotto, bonjour.
Bonjour.
Ben, je vous laisse faire, Horatica. Pourquoi vouliez-vous qu'il soit là ? Qui est-il par rapport à vous ?
Alors, c'est devenu un ami, mais ce que j'aime dans ce qu'il fait et dans son attitude, c'est un entrepreneur de talent, à succès, qui est dans les énergies renouvelables. Il va vous en parler après mieux que moi. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'il a réussi à réunir le commercial, enfin l'entreprise, l'entrepreneuriat, avec une éthique, avec une éco-responsabilité. Voilà, il pense fortement que nous ne sommes qu'un humain, enfin nous faisons partie d'un tout et que tout doit être en équilibre. Et donc, il applique ça de façon brillante.
Alors, je précise que avant l'émission, puisque vous êtes arrivé un peu avant, on parlait justement du recyclage, des ordures ménagères, etc. Et que vous, Monsieur Scotto, par exemple, vous me disiez que depuis quelques années, vous ne produisez plus d'ordures à titre individuel chez vous. Vous recyclez tout, vous compostez tout, etc. Mais c'est pas ça qui vous a guidé dans la création de AQO Energy. Comment ça se fait qu'on vous connaît pas beaucoup ici en France ? Parce que vous ne travaillez pas ici ?
Alors si, on travaille ici. D'ailleurs, la société a été créée en France. C'est une société française à l'origine.
Oui.
Simplement, on a décidé il y a quelques années de se lancer un petit peu partout dans le monde et d'essayer de développer les énergies renouvelables partout où c'était nécessaire. Et c'est un besoin de chacun des pays de cette planète.
Mais pratiquement, vous faites quoi ?
Pratiquement, c'est extrêmement simple. On n'a qu'un seul métier. On développe, on construit et on exploite des centrales électriques d'origine renouvelable. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le soleil, on utilise l'eau, on utilise le vent, on utilise les ressources qui sont disponibles sur cette planète pour les transformer.
Pas tout ce qui est carboné, donc. Terminé.
Voilà. Uniquement tout ce qui est décarboné, absolument. Oui. Et on les utilise pour produire de l'électricité ou de la chaleur, selon les besoins.
Et ce sont des opérations qui sont destinées aux individus ou aux entreprises. Alors, ou aux États ou...
C'est probablement une autre des raisons pour lesquelles vous ne nous connaissez pas, c'est qu'en fait on est sur des centrales de grande taille. Donc en fait nos clients sont les États, sont les grandes compagnies électriques de cette planète.
Oui.
Et de plus en plus, et c'est ça la nouveauté qu'il faut comprendre, de plus en plus de grandes sociétés mondiales qui ont conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans le type d'énergie qu'elles utilisent. Donc nous avons de nouveaux clients qui sont des grands groupes qui achètent cette énergie parce qu'elle est décarbonée. Donc c'est ça la nouvelle tendance un petit peu partout dans le monde.
En 2013, Oratica, vous avez été la marraine d'un projet de AQO. Il s'agissait, vous dites, si je me plante, la rénovation d'une école au Maroc, près de Ouarzazate. Mais je ne comprends pas bien l'énergie nouvelle et la rénovation de l'école. Expliquez-moi.
Alors, c'est une école donc, dans la banlieue de Ouarzazate, dans une région complètement délaissée, oui, un peu semi-désertique. Une école qui était il y avait des trous, c'est-à-dire quand il faisait trop chaud l'été, les gamins avaient trop chaud. L'hiver, il faisait parfois 2 degrés, il y avait des trous béants, la pluie rentrait, enfin, c'était terrible. Il y avait un taux d'absentéisme très fort de la part des élèves et des professeurs. Et Eric m'a proposé d'être marraine de cette école. Et donc, ils ont tout reconstruit en matériaux...
C'est bioclimatique.
Bioclimatique, en fait. C'est-à-dire que c'est de la terre crue, c'est des matériaux traditionnels. Donc les bâtiments sont auto-chauffés, il fait toujours bon. Il y a un potager où les enfants cultivent des légumes eux-mêmes pour se nourrir, parce qu'il n'y a pas forcément de cantine à l'heure du déjeuner.
Ouais.
Ils ont maintenant, et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que depuis que cette école a été installée, le taux de présence a augmenté de plus de 50%, et que les enfants ont exporté les bonnes manières, enfin, ce qu'ils ont appris dans l'école, dans leur village.
Ailleurs,
c'est-à-dire que maintenant, ils ont installé des poubelles, un tri des déchets, et ça, maintenant, c'est aussi dans le village, c'est les gamins qui ont amené ça dans le village.
Monsieur Scotto, je reviens à vous. Vous savez qu'on respire horriblement mal ici, dans beaucoup de villes françaises. Aujourd'hui, par exemple, on ne respire pas bien à Paris. Vous seriez le maire de Paris. Vous feriez quoi pour qu'on respire mieux ?
Alors déjà, je vais préciser, je ne suis pas candidat.
Non, je sais, ce n'est pas un problème politique, c'est un hologramme.
La tendance, là aussi, on est en train d'évoluer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de contestations sur la méthode et la façon dont ça se passe à Paris en ce moment, mais je crois que ce que fait le maire de Paris aujourd'hui est absolument nécessaire. On ne peut plus continuer...
C'est pertinent.
On ne peut plus continuer comme ça. Vous voyez bien la pollution chaque jour à laquelle nous sommes confrontés. Donc on doit évoluer, on doit sortir du tout voiture en ville, on doit aller vers des villes ville où on se sente bien, où il y a plus d'espace pour tout ce qui est espace vert, arbres. On doit modifier...
Mais la transition entre le tout bagnole qui était vanté il y a encore 10 ans et le plus voiture dans 15 ans, c'est difficile.
C'est toujours la même chose chez l'homme, c'est-à-dire on attend toujours de toucher le mur. Pour réagir. C'est exactement la même chose dans l'énergie, c'est la même chose dans l'agriculture. On attend d'être confronté, de toucher ce mur pour réagir. Alors après, bien sûr, une transition qu'on l'a fait au dernier moment, elle est toujours violente. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur cette planète. Parfois, il serait bon d'anticiper les choses et peut-être de préparer plus doucement ces transitions. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu violent parce qu'on est au bout du système et il va falloir accélérer. Donc la mobilité électrique arrive, ça c'est la bonne nouvelle, ça va permettre de mieux respirer dans nos villes. Pourquoi ? Parce que les technologies ont évolué, les technologies de stockage se sont développées à une vitesse extraordinaire, donc la mobilité électrique va être une des solutions dans les années à venir.
Or, Attica, vous circulez comment à Paris ? Vous avez un vélo ?
Je circule en autolib, à pied énormément,
ouais.
Et en chauffeur privé.
D'accord, ça c'est, c'est clair. Alors c'est vrai que c'est l'avantage, évidemment, le privilège des gens qui vivent et travaillent dans Paris, parce qu'il y a des transports en commun formidables, etc. Il faut penser à tous ceux qui doivent venir dans cette ville de loin pour travailler et repartir ensuite chez eux. Une dernière question pour vous, Eric Scotto. Accuo Energy, vous êtes dans plein de pays dans le monde. Quel est votre très beau projet, là, à court terme, quelque part ? Un truc qui vous tient bien à cœur, là.
Alors, effectivement.
D'ailleurs, il y a François Fillon qui visite une de vos bases, là-bas, à La Réunion, actuellement.
Une photovoltaïque à Quacol, en ce moment même.
Actuellement, moment, à La Réunion. Effectivement. Il y a votre DG qui vous présente.
Non, vous l'avez dit, on est dans une trentaine de pays aujourd'hui, de l'Amérique du Sud à l'Australie. Mais s'il y a vraiment un projet, parce qu'on en a beaucoup, on a plus de 54 qui tournent, mais on en a un dont on est fier, et il se trouve que c'est à La Réunion aussi.
Ouais.
C'est un projet qui est un peu la synthèse de ce qu'on a cherché à faire. C'est-à-dire qu'on a souhaité à La Réunion, qui est une île, ne pas avoir de conflit d'usage entre les énergies renouvelables et l'agriculture. Donc on a essayé de marier sur une même parcelle ces deux types d'activités. Et on a construit à La Réunion, dans la ville du port, une centrale électrique photovoltaïque, donc à partir du soleil, hein, on produit de l'énergie à partir du soleil, mais avec du stockage. Ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables pouvaient aujourd'hui occuper une part beaucoup plus importante dans le mix énergétique grâce au stockage. Simplement, ce projet-là, on l'a fait à l'intérieur d'une prison. Donc au-delà du côté énergie renouvelable, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que nous, entreprises, on n'a pas uniquement une responsabilité commerciale au niveau de cet écosystème et de ce territoire,
mais
on peut avoir une responsabilité sociale. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose d'extrêmement simple et bête, hein, si je puis dire. On s'est dit, si on offre la possibilité à des détenus d'avoir de vrais métiers d'avenir, de vraies formations, la réinsertion devrait être réussie. Et ce qu'on leur propose de faire au sein de cette prison, hein, de ce centre de détention, c'est d'être formé au métier de l'agriculture de demain, la permaculture, et ils cultivent donc à l'intérieur même de la prison, sous des serres photovoltaïques anticycloniques, qui en plus résistent aux cyclones, des légumes qu'ils mangent aussi aux messes, à l'intérieur même de la prison. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi on en parle ? C'est parce qu'on a attendu d'avoir des gens sortis de prison, en CDI, dans des entreprises, depuis plusieurs années, pour montrer que ce projet était un projet qui fonctionnait. Donc voilà, c'est un des projets dont
c'est
on
sublime,
est le plus
fier. Hein. C'est merveilleux, super. Parce que c'est tout ça, top. C'est du lien, c'est rétablir aussi c'est du lien. Et de l'équilibre et de la justice.
Alors,
et
écoutez,
je pense, si vous avez une idée de reportage, là, je ne sais pas.
Ben voilà, exactement.
Mais en tout cas, voilà, c'est toujours cette idée du lien.
Le pont est absolument évident. Merci beaucoup, Monsieur Scotto, parce que c'est vraiment super.
Merci
ce que
à vous.
Faites.
Merci,
alors,
Monsieur
le pont
Scotto.
Est évident, parce que en matière de lien, vous allez voir, Oratica voulait qu'on fasse un reportage ici à Paris, rue de Chabrol, hein, précisément. Là, c'est dans le 10e arrondissement, si je ne m'abuse. C'est un lieu extraordinaire, absolument extraordinaire. C'est un lieu de vie, d'habitation, d'échanges. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, on va écouter le reportage de Mélina Fachin dans un instant. Il est 13h14.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Oratica et Bernard Poirette.
Tout le monde connaît, bien sûr, hein, Éric Satie, l'agnosienne numéro 1. J'ai choisi ce morceau-là parce que je sais que vous l'aimez, Horatica, et puis parce qu'il introduit merveilleusement bien le sujet que vous avez voulu que nous illustrions par un reportage, donc je le répète, rue de Chabrol à Paris. Vous aviez vu, il y a un an et demi, dans la revue excellente d'ailleurs, 21, qu'il y avait un reportage sur cet endroit incroyable. C'est un immeuble qui a été créé, c'est devenu un immeuble d'habitation collective, mais c'est très particulier. C'est une sorte de phalanstère, en quelque sorte, et Mélina Fachin y est allée. Pour nous, écoutez.
Au fond d'une belle cour arborée, à l'abri des regards, derrière un joli jardin où traînent des vélos d'enfants, c'est l'heure du café croissant pour les habitants du 47 rue de Chabrol. L'immeuble à la belle façade en bois très design abrite 10 logements, des studios et des appartements pourvus de salles de bain privatives. Mais la grande cuisine ouverte et le vaste salon sont des espaces communs à tous les locataires.
C'est vraiment un désir d'empêcher la solitude.
Françoise Lorenzetti est la propriétaire des lieux. Elle qui possède un club de rugby et un vignoble a décidé il y a 6 ans de faire profiter de son argent aux plus démunis. Avec l'association Habitat et Humanisme, elle a rénové, meublé et décoré les lieux pour les louer à des personnes de tous les âges.
Les jeunes sont des jeunes qui sont non boursiers, qui n'ont pas de famille pour les aider. Les personnes âgées ont très peu de revenus, souvent des femmes qui n'ont pas forcément travaillé pour avoir aujourd'hui une retraite. Et les mamans, alors là c'est des mamans qu'on sort des hôtels du SAMU social qui vivent dans 10 à 11 mètres carrés avec un ou deux enfants. Pour moi, ce n'est pas de la charité, hein, c'est de la justice.
Et voilà, et là, c'est le bébé. Il y a déjà le petit.
Ici, les loyers sont imbattables. 3 à 4 fois en dessous des prix du marché, 400 euros en moyenne. C'est ce qui a permis à Russell, étudiant bordelais en archéologie, de poursuivre sa formation à Paris.
Je n'ai toujours pas eu de réponse des logements du Crous, donc soit j'aurais serré les dents pour vivre dans un espace exigu, un loyer, j'espère, modéré, ou alors j'aurais simplement avorté le projet de venir à Paris, oui.
Sa voisine de palier, Viviane, a emménagé il y a 4 ans. À l'époque, elle était une mère célibataire de 22 ans, trimballée de foyer en foyer. Elle se rappelle de sa première nuit ici.
J'ai dormi comme un bébé, c'était génial. Je n'arrivais pas à y croire. Et mon petit garçon, il était épanoui, il avait de l'espace, voilà, où on était chez nous, on était enfin chez nous.
Bonjour.
C'est un enfant qui est très ouvert, il est très sociable. Je pense que c'est ici qu'il a développé ce côté-là, en fait, parce qu'avant, on n'était que tous les deux ensemble.
La jeune femme s'est mariée depuis, attend un deuxième enfant dans les tout prochains jours.
Et c'est le deuxième bébé qui naît.
Son appartement devenu trop petit, elle va bientôt déménager, non sans un gros pincement au cœur. Annie, elle, élégante et pétillante retraitée de 70 ans, adore son studio avec terrasse ensoleillée.
Pratiquement tout le monde est venu prendre un petit coup de rosé.
Et elle espère bien y finir ses jours.
Des fois, je suis assise dans mon fauteuil comme une vieille dame, hein, et je me dis, jamais j'aurais pensé de toute cette vie tumultueuse que j'ai eue, avoir un endroit si serein. C'est bien de finir sa vie comme ça.
Le 47 rue de Chabrol, c'est comme une grande famille, avec parfois ses disputes, mais surtout ses grands moments de joie. L'expérience est si concluante que Françoise, la propriétaire, s'attelle dès le mois prochain au sud de Paris à la rénovation d'une nouvelle maison du bonheur.
Alors, couscous le 25 et séance photo.
Ça nous change des marchands de sommeil, Horatica. Hein.
C'est génial,
le moins qu'on puisse
hein.
dire. Hein. Ouais. Si vous aviez de l'argent, vous feriez ça aussi?
Ah ben j'aimerais bien, j'aimerais bien soutenir un projet comme ça. Oui, si j'avais de l'argent, oui. Oui, sûrement, oui.
C'est super.
Mais oui, j'aimerais bien. Je trouve ça merveilleux de voilà de ce lien comme ça entre les gens qui. Puis dans l'article que j'avais lu, il y avait justement les personnes âgées qui faisaient du babysitting pour les mères célibataires. Ben voilà, c'est tout le monde s'entraide.
C'est une sorte de phalanstère avec échange de services où l'argent n'existe presque plus puisque les loyers sont symboliques, etc. Quand vous êtes chez vous, entre guillemets, dans votre village, là près de Lectour, dans le Gers, vous avez ce relationnel avec les gens du coin, là? Je crois que oui. Hein.
Oui, bien sûr, oui, je connais les gens du coin. Ben oui, déjà, j'étais me présenter quand je suis arrivée. Donc, Mais en fait, puis, j'aime bien la vie là-bas, la vie simple, tranquille, les gens sont adorables.
Il n'y a pas de téléphone, je crois, il n'y a pas de télévision, il n'y a presque rien. Enfin, on peut
non,
pas
j'ai pas la. Alors maintenant, j'ai fait mettre internet et un téléphone fixe parce que ça devenait compliqué pour travailler, mais j'ai pas la télé, non. Je regarde des films, je lis des livres beaucoup.
Et vous êtes tombée là-bas complètement par hasard, vous vous baladiez, et puis vous avez vu une petite annonce, vous avez visité la ruine. Chine et vous avez acheté.
Vous êtes très bien informé. Oui, mais j'ai aussi un peu de famille là-bas à Lectoure. Donc
Vous en avez en Savoie, vous en avez aussi dans le Gers, mais vous êtes incroyable, voilà. Dites donc.
Et dans le monde entier.
Dans le monde entier, vous êtes un personnage universel. Oratica, son journal inattendu, il est 13h20. La dernière partie dans un très court instant. Moi, j'ai envie de finir mes jours with Chabrol, là, ça me plaît bien, en tout cas, cette histoire-là.
Ouais, ça donne envie.
C'est bien, hein. En fait, c'est un vieux projet. J'ai un tas de copains qui me disent, oui, il faut qu'on fasse un phalanstère. Il faut qu'on achète une grande ferme dans le sud
pour
de la
vieux
Drôme,
jours.
Pour nos vieux
ouais.
jours. Et puis, on finira pas à l'hospice sur une chaise percée. Et quand il y en aura un qui sera trop vieux, on le piquera. Et comme ça, ce sera mieux, on pourra jouer au bout, ouais. etc. C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée, ça. Mais je crois qu'il y a des choses qui se montent comme ça. Je crois qu'il y a des maisons de retraite, des sortes de multipropriétés.
Je sais, il y en a plein. On a fait des reportages déjà ici. Il y a un truc formidable du côté de Montreuil, à côté de Paris, qui s'appelle les babouchkas, je crois. Ce sont que des vieilles dames qui vivent ensemble et c'est un endroit absolument extraordinaire. C'est bien tout ça. Ça laisse du champ du possible, on va dire ça. 13h21, l'invité surprise est caché juste après la pause.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Oratica et Bernard Poirette.
Il patiente depuis quelques instants, c'est l'invité mystère d'Oratica. Invité mystère, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous nous entendez bien, je vous entends bien. Parlez à Oratica, il faut qu'elle essaye de savoir qui vous êtes.
Bonjour Or, écoute, on se connaît depuis quelques années, on se voit peu. Mais chaque fois qu'on se voit, c'est toujours très chaleureux, très cordial, parce que Or, je vais parler d'elle plutôt, c'est une fille extrêmement intelligente, c'est une fille curieuse de tout, c'est une fille qui s'intéresse aux autres, aux gens, et c'est pour ça que j'ai toujours gardé une grande... Non, je ne lui passe pas la brosse, non, c'est trop facile de dire, lorsqu'on dit des gentillesses aux gens, de dire qu'on leur passe la brosse. Je dis tout simplement que j'apprécie, autrement je ne serais pas intervenu dans l'émission.
C'est vrai.
Et voilà Bernard, donc ne déformez pas mes propos.
C'est promis.
Qui est-ce?
C'est Bruno voilà. Solo.
C'est Bruno voilà. Solo, bien
je
sûr.
Je vois sa tête quand il parle.
Salut.
Ça va?
Vous vous êtes rencontrés sur le tournage de La Vérité si je mens, vous vous connaissiez avant, non?
Non, on s'est rencontrés sur le tournage de La Vérité si je mens, du premier. On est toujours resté en contact. On se voit trop peu, mais on apprécie à chaque fois qu'on se voit.
Mais vous avez tourné les trois ensemble? Vous étiez dans les trois castings?
Oui,
dans le premier, j'étais secrètement amoureux d'elle. Dans le deuxième, j'étais enfin avec elle, mais secrètement aussi. Et dans le troisième, elle est ma femme. J'aime autant vous dire qu'il y a beaucoup de comédiens qui auraient aimé être à ma place et qui auraient aimé avoir ce rôle.
Ça, c'est
je
n'ai
plus La Vérité si je mens que pour ça, hein, pour tout vous dire.
Moi, j'ai toujours voulu être comédien, justement, parce que vous embrassez plein de filles super, Bruno Solo, les comédiens, n'est-ce pas?
Oui, mais peut-être qu'un jour, on se retrouvera sur un film, on fera un couple, Bernard.
Ah bah pourquoi pas, on pourrait se paxer éventuellement. Vous pourriez venir au phalanstère dans la Drôme avec nous, on jouerait aux boules, et à la fin, on se picouse. Ça, c'est bon, ça, non?
Écoutez, c'est un programme assez alléchant, mais c'est pour y réfléchir, Bernard.
Écoutez, en tout cas, j'ai un fil avec un aimant au bout pour que vous ramassiez les boules sans vous baisser, Bruno Solo.
Vous rigolez.
Vous avez déjà une relation, tous les deux, c'est
ça? Non, on ne se connaît pas, imaginez-vous. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré quelques minutes et d'avoir été un petit peu patient, parce que je sais que vous attendiez qu'on vous appelle, Bruno Solo. Mais vous avez été démasqué très vite par Oratica.
Oui, mais il a une voix inimitable. Merci beaucoup, Bruno. À très, très vite.
Je t'embrasse très fort.
Bon week-end en tout cas, Bruno Solo. Merci infiniment. Parlons du cinéma, justement, Oratica. Bon, certes, La Vérité si je mens. Et puis, il y a eu d'autres choses. J'ai sélectionné un petit extrait de cet autre film, parce que personnellement, je l'ai beaucoup aimé.
Je me fous la pêche.
Tu sais pourquoi je lui sers d'alibi? C'est parce que je suis amoureux de toi.
Casse-toi.
T'as entendu? Je suis amoureux de toi. C'est comme ça, j'ai envie de toi. Tu n'as jamais pensé, toi, peut-être?
À quoi?
À ça, à ce que je te dis, t'as jamais senti qu'il y avait un truc entre nous, hein?
Non.
Bon, alors c'est moi, c'est dans ma tête, j'invente.
Ouais.
C'est pas possible, putain. Quand on se voit, on n'arrive pas à se dire trois mots, on n'arrive pas à se regarder, à se toucher. On est comme des mômes.
Bon, c'est Romain Duris.
C'est Romain Duris, c'est dans De battre mon cœur s'est arrêté,
voilà,
de Jacques Audiard.
C'est un bon souvenir, ce film, pour vous? Parce que vous disiez au tout début, là, il y a une heure, vous disiez dans votre autoportrait, moi je suis fier de quelques films, de quelques rôles.
De quelques rôles, oui, voilà. Dans De battre mon cœur s'est arrêté, bien sûr, c'est un très très beau souvenir. Déjà la rencontre et le travail avec Jacques, qui a une façon très particulière de travailler.
Ça peut être facile. Hein.
En fait, ce qu'il y avait de génial et de déstabilisant au début sur le plateau, c'est que c'est vraiment work in progress. C'est vraiment, il nous demandait aussi notre avis sur Enfin, moi, je n'avais pas l'habitude, en tout cas, de ça, sur comment on se positionnerait, comment on bougerait, qu'est-ce qu'on dirait à ce moment-là, est-ce qu'on rajouterait quelque chose. Donc, c'était vraiment du work in progress tous les jours, c'était assez magique. Et puis avec Romain, qui est un fabuleux acteur.
Et vous avez actuellement un projet cinéma, là, il y a un truc en cours?
Alors j'ai un film qui sort le 20 septembre, qui s'appelle L'un dans l'autre, de Bruno Chiche, avec Louise Bourgoin et Stéphane de Groot et Pef. Une comédie.
Comédie.
Oui. Et puis je viens de terminer aussi un premier film franco-algérien qui s'appelle En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, et qu'on a été tourné à Alger. Et voilà, c'était une expérience très atypique.
Ça doit être une chouette expérience.
Un très joli film. Ouais, très joli film. Le scénario est sublime.
Le scénario est sublime.
Ouais, vraiment.
Et ça sort quand?
Et ça, je ne sais pas. C'est en montage. Ouais.
Et juste un dernier mot, Horatica. J'ai lu que vous aimeriez bien faire plus de théâtre. Vous n'en avez pas fait énormément. Vous avez des pistes là aussi ou pas du tout là? Vous attendez que ça vienne?
Je ne sais pas. J'attends que ça vienne, je le dis. Ben voilà, vous voyez, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Oui, j'aimerais bien faire plus de théâtre. Après, je n'ai pas fait le conservatoire, donc déjà, ça ferme quelques portes. Et puis, c'est une autre famille, le théâtre. Les quelques propositions n'ont pas forcément emballé. Il faut aussi, le théâtre, il faut se dire... On va scoltiner et travailler avec des gens pendant 2-3 mois. Donc, il faut être sûr du projet et être vraiment... enthousiasmé à 300% du projet.
Vous savez, Horatica, que dans les prochains jours, il y a les Césars et puis il y a les Oscars, ensuite à Los Angeles, presque dans la foulée, presque le même jour. Au tout début aussi, vous disiez dans l'autoportrait, j'aurais bien aimé être Isabelle Huppert. Vous pensez qu'elle doit gagner le César, Oscar pour elle?
Qu'elle doit gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, elle mérite de gagner. C'est une grande, grande actrice. Oui, je disais, j'aimerais être Isabelle Huppert parce que j'aimerais avoir sa carrière continuer à faire plein de beaux films. Et puis surtout, voilà, elle fait des films et des rôles fabuleux.
C'est un personnage assez étonnant en plus, je crois.
Oui, j'avais travaillé avec elle sur Copacabana de Marc Fitoussi.
Mais peut-être que ce n'est pas facile pour nous les journalistes. Hein. Isabelle Huppert, je ne sais pas si c'est très simple.
Je ne sais pas. Ça s'est très bien passé.
Merci beaucoup, Horatica. Je rappelle le pourquoi de votre venue au journal inattendu. Mon ciel et ma terre chez Fayard. Ça vient de sortir. Vous racontez votre vie avec votre maman. Et c'est quand même extrêmement intéressant et assez croquignolé. Voilà,
merci
pour tout dire. Merci d'être venu au journal inattendu. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.
Merci de m'avoir invité.
Dans une poignée de secondes, puisqu'il est 13h28, juste après la pause, il y aura l'émission, bien sûr. On refait la télé avec Jade et Éric Dussard sur RTL. Moi, je vous retrouve demain à 7h, même antenne. Salut, bonne journée.
Le journal inattendu sur RTL.